au Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro-Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir ou bonjour pour cette nouvelle édition de Micro-Rebelle Hebdo. Donc nous sommes comme chaque vendredi en direct sur micro-rebelle.fr pour une émission d'une heure jusqu'à 19h, une émission d'actualité sociale, d'actualité générique sur le bassin minier et au-delà. Donc on a prévu plusieurs actualités, plusieurs reportages, comme chaque vendredi, l'agenda, la revue de presse, des reportages ou des extraits de reportages. Alors aujourd'hui, nous sommes deux en studio. Notre ami Luc est en train de préparer la fête de la musique. On est le vendredi 21 juin. Eh bien, je suis avec Aurélie. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Eh bien, tous les deux, on va s'efforcer de passer ensemble cette heure avec vous, chères auditrices, chers auditeurs. Et si vous en êtes d'accord, eh bien on va sans attendre démarrer par l'agenda.
Le samedi 22 juin, on se retrouve pour donner un coup de main au maraîcher Jonathan de Terre de Liens. Donc Jonathan Bétermier, le maraîcher qui s'installe à Loison-sous-Lens a besoin d'aide. En effet, il vous donne rendez-vous ce samedi 22 juin sur sa parcelle pour une chasse au chardon. Donc on espère que vos bras et votre enthousiasme auront raison de cette plante invasive. Ça commencera dès 9h et jusqu'à ce que la parcelle soit propre. Une auberge espagnole est prévue pour le midi. Pour information, l'accès au terrain se fait par une voie ouverte à hauteur du 95 rue Georges de Vouges à Loison-sous-Lens. Donc prenez vos bottes et vos gants si vous en avez. Et n'oubliez pas un chapeau pour le soleil, car oui, il fera beau.
On reste le samedi 22 juin pour un événement qui est organisé par l'atelier d'histoire critique dans le cadre du printemps de l'égalité des droits. C'est un atelier qui s'intitule « Parole de migrants », un atelier en présence de militants et de militantes du comité des sans-papiers du Nord, de la CIMADE de Tourcoing et d'Emmaüs Dunkerque. En France comme en Europe, les migrants et les migrantes originaires du Sud global sont l'objet d'amalgames et de fantasmes, d'études statistiques et d'enquêtes, parfois bienveillantes, plus souvent stigmatisantes. Ils et elles sont les cibles privilégiées des politiques sécuritaires et des discriminations raciales érigées en système. Comme la plupart des groupes dominés, leur droit à la parole est contesté. Par exemple, leurs histoires sont tronquées, leurs paroles sont déformées, leurs trajectoires sont décontextualisées. Autre exemple, en rendant la parole à quelques-uns ou quelques-unes de ces migrants arrivés par choix ou par accident dans la région, et en rendant compte de la multiplicité de leurs trajectoires, de leurs choix et des obstacles qu'ils et elles rencontrent, nous nous efforcerons de redonner un visage à chacun de ces acteurs de la migration. Donc ça se passe à Lille, à la médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louise de Bétigny de Lille, et c'est donc samedi 22 juin à partir de 15h.
Toujours le samedi 22 juin, décidément, aura lieu un concert du printemps de l'égalité des droits à l'initiative du collectif des sans-papiers du Nord. Donc c'est une invitation à venir d'eux-mêmes jouer gratuitement de 15h à 21h à la place de la République au parvis des droits de l'homme à Lille. Pourquoi ? Pour l'égalité des droits, la régularisation des sans-papiers aussi le droit de vote aux immigrés et dire non au fascisme dans nos villes et campagnes.
Eh bien, on reste encore et toujours hein, le samedi 22 juin. C'est Upon the Shadow, un documentaire de Nada Mesni Afaled qui nous parle des droits des LGBT en Tunisie. Les LGBT, donc les lesbiennes, gays, bi et trans en Tunisie. C'est une séance qui est proposée par l'association Le Maghreb des Films et ça se passe au cinéma L'Univers à Lille Moulin. Le samedi 22 juin, donc à partir de 19h30, les tarifs sont de 4 euros.
Le samedi 22 juin aura lieu de même un ciné-débat organisé par le réalisateur Édouard Bergeon, un agriculteur local et les Colibris. Sera projeté le film intitulé « Au nom de la terre » avec Guillaume Canet, Verlet Batens, Anthony Bajon, Rufus et Samir Ghezmi. Le synopsis a l'air très intéressant, je vous laisse en juger par vous-même. Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, et la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début. Les dettes s'accumulent, et Pierre s'épuise au travail, malgré l'amour de sa femme et de ses enfants. Il sombre peu à peu. Donc rendez-vous pour voir ce film au Ciné Movida d'Arras pour la projection du film à 20h.
On passe au dimanche 23 juin. Peaceable Kingdom, c'est encore un film et c'est encore un ciné-débat. Donc c'est un film qui est un récit sur la lutte de conscience d'éleveurs qui soudainement questionnent les fondations d'un mode de vie qu'ils ont toujours connu. Donc c'est un film qui est proposé par l'association L214, hein, dont on entend relativement beaucoup parler en ce moment. L'association L214, Éthique et Animaux. Ça se passe au cinéma L'Univers à Lille Moulin. Et donc, c'est dimanche 23 juin à 19h. Il y aura sur place un bar et une petite restauration 100% végétale avant et après la séance. Séance qui est elle-même à prix libre.
Le dimanche 23 juin, cette fois-ci, on se retrouve pour une soirée de soutien à l'anti-REP de Bure. L'anti-REP, c'est l'anti-répression policière à Bure, où l'État envisage la mise en œuvre d'un projet de poubelle nucléaire. Lil Rajet t'invite donc à une soirée de soutien à l'anti-REP de Bure, et pour l'occasion, ils reçoivent le groupe Plagia. Au programme, dès 20h, grignotage et discussion sur le projet CIGEO. Puis à 21h, un concert et Plagia. Et dès 23h, c'est la fête, donc ça se passera à Lille. Si vous prenez le métro, vous pouvez descendre à Porte des Postes. Ça se passera au CCL, aux 4 rues de Colmar.
Lundi 24 juin maintenant, la pub au Pays des Merveilles. Les Amis du Monde Diplomatique et le collectif des Déboulonneurs vous proposent une projection du film « La pub au Pays des Merveilles ». Projection qui sera suivie d'un débat en présence du réalisateur Mathieu Liétard. Des PDG d'agences publicitaires, psychologues industriels et ingénieurs informaticiens expliquent l'un des moteurs principaux de la société de consommation. De l'autre côté, des lanceurs d'alerte soulignent les dangers pour la démocratie et la planète de cette révolution publicitaire. C'est donc lundi 24 juin à 20h au cinéma Le Méliès, rue Traversière à Villeneuve-d'Ascq, accès par le métro Triolo.
Et enfin, on se retrouve le samedi 29 juin. On vous attend, chers auditeurs et chères auditrices, pour l'assemblée ouverte de Micro Rebelle. Donc chaque dernier samedi du mois, Micro Rebelle propose à ses adhérents et adhérentes, ainsi qu'à ses auditrices et auditeurs, de se retrouver dans le cadre d'ateliers d'échange autour des émissions radiophoniques mises en œuvre par Micro Rebelle. Donc cette fois-ci, ça se passera de 10h à 12h30 au Lag, au 23 avenue Jean Jaurès, suivi d'un barbecue convivial. On vous y attend.
Là, tu viens de parler de l'Assemblée Générale, c'est ça ? Très bien. Donc oui, l'Assemblée Générale hein, qui nous concerne effectivement beaucoup. Et donc on invite effectivement toutes et tous, toutes nos auditrices et tous nos auditeurs, à nous rejoindre à l'occasion de cette Assemblée Générale samedi prochain. Voilà, cet agenda se termine. On va maintenant vous proposer un premier reportage. Donc vous savez que ce mois de juin, c'est dans le monde, c'est un petit peu le mois des fiertés. Et donc on a profité de ces événements, de ces marches des fiertés, pour poser nos micros au planning familial à l'occasion du bar LGBT que tient le planning familial du Pas-de-Calais une fois par mois. Donc poser nos micros, ça se fait sous la forme de ce qu'on appelle un sonomatouze. Autrement dit, on pose un micro et puis on laisse les gens discuter. Et donc, les différents protagonistes sont, comme c'est le mois de juin, intervenus sur la question des différentes marches des fiertés. Je vous propose de les écouter sans tarder.
Tu en veux ?
Je veux bien, oui.
Quel est pour toi l'intérêt de la marche des fiertés ? On dit la Pride et pas la Gay Pride, voilà. Parce qu'il n'y a pas que des gays.
C'est quand même petite parenthèse. Avant, on disait toujours Gay Pride. Enfin, il y a longtemps.
Mais c'est quelque chose de très français au final, parce que dans les pays anglophones, on dit juste Pride.
Ouais.
Et en France, on a toujours foutu un gay devant.
Et si on traduit Pride en français, c'est de...
Fierté.
Ah, d'accord. Voilà.
C'est pour ça que c'est la marche. C'est pour ça la traduction française, c'est la marche des fiertés.
Voilà. Voilà.
Ah bah voilà. C'est pour montrer qu'on existe.
Ouais, c'est ça.
Pour réclamer des droits.
Ah oui, des droits aussi, surtout. Pour que les gens ils s'habituent à nous, comme ça, après ça devient... dans leur quotidien.
Normal, entre guillemets.
Bah oui. Voilà. Et puis rencontrer des gens, donner des infos sur les assos qui existent, ou s'il y en a qui ont besoin d'aide, de conseils.
Vous savez d'où ça vient, vous, les prêtres ? Comment ça se fait qu'on en est ? Et pourquoi ils ont tout en été ?
Moi, je sais pas.
Ouais, d'où vient la Pride ? Ouais, c'est marrant parce que
c'est un peu l'origine. Ouais.
C'est marrant parce que tout le monde connaît les marges et fiertés. Et au final, assez peu de gens savent d'où ça vient. Mais en gros, c'est en commémoration des émeutes de Stonewall qui a eu il y a 50 ans tout pile. D'ailleurs, on fêtait 50 ans cette année. Ouais, le Stonewall Inn, c'était un bar à New York qui, pendant les années 60, était, comme tous les bars gays, je vous précisais aussi qu'il y a cette intersection par mal de choses, c'était des bars gays, mais où il y avait aussi beaucoup de travailleuses du sexe, il y avait beaucoup de travailleuses et travailleurs du sexe, beaucoup de latinos, beaucoup de noirs.
Trans aussi.
Voilà, de personnes trans, de drag queens, vraiment c'était quelque chose, voilà, c'était pas... c'est pas le privilège, quoi. Il faut savoir que la police faisait pas mal de... parce que c'était... il y avait beaucoup de lois à l'époque qui interdisaient les choses absurdes, en fait. C'était de s'habiller avec des vêtements d'un genre qui n'est pas le sien, ou pour deux hommes de danser ensemble. Donc, beaucoup de choses comme ça. On a eu à peu près les mêmes en France aussi. Hein. Et il y avait des descentes de flics, du coup, dans ces bars.
Juste pour ça.
Ouais, et c'était aussi pour casser du PD, casser de la trans, casser des lesbiennes. Il y avait vraiment ce truc, cette volonté d'humilier, cette volonté de briser. Et c'est un peu le quotidien tout le temps. Et un jour, en fait, ça a pété. On sait que ça a commencé au Stonewall. On a assez peu de détails sur la façon dont ça s'est déroulé, qui a lancé la première pierre, qu'est-ce qui a provoqué ça. La légende raconte, moi j'aime bien ça, c'est qu'en fait les gens ont pété un câble à cause de la mort de Judy Garland, du coup icône gay, et qu'ils étaient déjà à vif, et qu'en plus de ça, les flics qui débarquaient une fois de plus pour foutre la merde, c'était la cerise sur le gâteau, et qu'il y en a en gros une qui a chopé son talon aiguille alors qu'il essayait de ramener ses copines dans le panier à salade, qui a pris son talon aiguille, qui l'a balancé à la tête d'un flic. Et à partir de là, l'émeute a commencé, la population du bar s'est retournée contre les flics, le quartier aussi, et c'est des émeutes qui ont duré plusieurs jours.
Ah ouais.
Presque une semaine, non ?
Ouais, c'était extrêmement violent, c'était vraiment un soulèvement des personnes queer contre la police, contre les violences policières. faut, voilà, et c'est ça qu'il faut.
C'est les dates d'un démarrer.
Ouais, et, mmh. et un an, un an jour pour jour après coup, ils ont fait une marche pour commémorer les émeutes. C'était la première Pride du coup de l'histoire. Mmh. Et après ça, bah, du coup, ça, comme une traînée de poudre en fait, dans les États-Unis, ça s'est propagé et ça a traversé les océans. Et du coup, on s'est retrouvé voilà, avec des marches de fierté. Ça vient de ça à la base, les marches de fierté, c'est à la base c'est quelque chose pour commémorer la lutte contre les violences policières.
J'avais entendu parler de Purple Hand aussi. C'est en fait c'est un groupe de lesbiennes qui ont été victimes de la police aussi, je crois, ouais. au Canada. Ouais. J'essaie de regarder en même temps sur internet.
Ouais, vas-y. Ouais.
Et t'as oublié de citer les celles qu'on désigne comme les instigatrices des.
Ouais, Martha P. Johnson et Sylvia Rivera.
Ouais.
Toujours dans la légende, on raconte que c'est elle, une des deux qui a lancé le premier talon, la première pierre, mais en vrai, on n'en sait rien. Mais oui, par contre, c'était deux figures importantes de la lutte à cette période, oui.
Ouais. Et Marsha, elle était trans, ouais. drague et travailleuse du sexe.
Ouais, et noire.
Et noire.
Purple en son origine, San Francisco, le 31 octobre 1969, suite à une série d'articles contre les personnes LGBT, 60 membres du Front de la Libération Gay protestent contre l'examinaire, journal local. La manifestation, au départ très sereine, tourne à la violence. Les employés du journal lancent un baril d'encre violette sur la foule. Les manifestants en profitent pour écrire « Gay Power » sur les murs du bâtiment. Les forces de police arrivent en arrêtant les manifestants avec violence. En réponse, les gays et les lesbiennes trempent leurs mains dans l'encre et apposent leurs empreintes sur les murs de San Francisco. Appelé le vendredi de la main violette, ce fut l'une des plus visibles manifestations de reconnaissance homosexuelle.
Et c'était la même année du coup
69, ouais. 69.
Ouais. Ouais. C'est quelques mois après, ouais.
Allez, érotique.
En réponse à des vagues d'homophobie importantes, les premières gay prides sont apparues aux États-Unis dans les années 50 et 60. Des mouvements communautaires sont nés et ont œuvré pour les droits des gays et lesbiennes. C'est en 1969 que le Gay Liberation Movement a été créé à San Francisco. À l'époque, cette ville est très progressiste, notamment grâce à la création du mouvement hippie.
Parce qu'avant ça, oui, il y avait comme des démarches, des rassemblements. Il y avait beaucoup de militants, pour appeler assimilationnistes, en fait, beaucoup de mecs blancs, gays, et qui faisaient bon chic, bon genre, un peu.
Des homos, pas des gays, pardon.
Oui, mais qui en gros aurait réclamé la normalité, qui allait manifester en costard cravate. D'ailleurs, c'est un truc qui faisait beaucoup, c'était pour dire regardez, on est bien habillé, donc on est fréquentable. Ce qui est une façon de voir les luttes, mais qui n'est pas vraiment ça.
Alors maintenant, on se plaint parce qu'il y en a qui se trimballent avec des plumes dans le cul, soi-disant.
La question, c'est
l'intérêt de la marche de fierté pour toi.
Bon, pour toi, justement, le pour toi est intéressant parce que c'est ça qui est intéressant quand on va dans une pride, surtout dans les prides des grosses villes.
C'est pour faire la fête.
On se rend compte ouais, qu'il y a vraiment pas mal de visions différentes des ouais. prides en fait. Il y en a ouais, qui vont vouloir.
Ouais, moi, c'est un moment de fête.
Ouais.
Moi, ouais, c'est une fête.
Ouais. Ce qui est cool, parce que non, on en a besoin aussi des moments de fête. Vraiment. T'en as fait des prides
sur l'île, ouais.
Ouais.
Moi aussi, j'ai déjà même suivi le cortège. Une année où il faisait hyper chaud, puis tout le monde s'est baigné à la fin sur la place du Général de Gaulle, dans la fontaine.
Il y en a beaucoup qui le prennent comme une fête. Moi, au début, les premières que j'ai faites, c'était vraiment la fête. Maintenant, je comprends le côté un peu politique, revendication, des trucs comme ça.
Ouais.
Et j'ai l'impression, parce qu'on voit de plus en plus de gamins, en fait. Enfin, de gamins. Des ados, voire jeunes qui y sont. Et j'ai l'impression qu'eux aussi, pour l'instant, c'est plus de la fête qu'autre chose qu'ils sont en train de voir. Donc j'espère que c'est le ressenti que j'ai. Après, s'il ouais. faut, ils sont au contraire très, très militants déjà, très jeunes. Et ils comprennent plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai eu cette révélation un peu tard, on va dire, au niveau des prides. Parce que ma première, c'était à 19 ans, 20 ans.
Ouais.
Et au début, pareil, c'était la fête, quoi. J'étais monté sur le char et tout, j'étais trop content.
Un grand fait sur le char, pantalon aiguille.
Pantalon aiguille, voilà. Et pour avoir plein de revendications.
Non, parce qu'il y a quelque chose de politique aussi, dans le fait de faire la fête. C'est,
ouais.
Mais ouais, c'est cool de pouvoir faire la fête dans une société où on nous dit toujours qu'il faut avoir honte, qu'il faut pas trop se montrer, qu'il faut pas trop être exubérant, qu'il faut sortir que le soir.
Il y en a qui disent que le fait de faire la Pride et tout, ça nourrit la colère de ceux qui sont Pride phobes, enfin qui sont...
Bah ils m'ont d'un ulcère.
Ouais, l'idée que la Pride ferait une mauvaise image.
Bah ouais, je sais pas, il y en a qui disent que c'est ça qui alimente la colère de ceux qui...
Bah c'est une façon détournée comme d'hab de dire que... Bah c'est toujours la faute des victimes en gros. Ouais, bah s'il y a de l'homophobie, s'il y a de choses, bah c'est forcément à cause des LGBT parce qu'ils font chier avec leur musique forte là et à se balader avec des vêtements qui sont un peu bizarres dans la rue là.
Puis on les fait
très peu de vêtements.
Oui.
Voilà. Ça les fait se remettre en question peut-être les gens et ça les dérange du coup de se remettre en question eux-mêmes. Peut-être ils sont tellement dans leur...
Après déjà c'est quelque chose qui est extrêmement pluriel.
On devrait mettre toutes les choses à défendre humainement, on pourrait inclure dans une même marche, je dirais. Enfin, la Terre, c'est comme chez Mémé, moi je dis toujours. Parce qu'on est tous cousins, enfin je sais pas, on est tous. Ça fait un tout en fait.
Bah, le fait d'être ensemble ne veut pas dire qu'on pourrait gommer les différences, pour moi c'est juste.
On est gommé, mais rester soi-même, qu'importe les différences.
La lutte pour tout.
Bah voilà.
La manif pour tout. Oh non.
Non, non.
Oh oui.
Ça serait un gros troll, ça aussi.
Le gros troll, c'est de faire la manif pour toutes. Tout, en écriture inclusive.
Voilà.
Tout et tous.
Pour toutes.
Mais voilà, donc c'était au planning familial, à l'occasion d'un bar LGBT, un sonomatouse concernant les marches des fiertés. Ce reportage, vous pouvez le réécouter sur microrebelle.fr, hein, comme toutes nos émissions, comme tous nos reportages, toutes nos interviews, toutes nos créations sonores. Je vous propose maintenant une première pause musicale, hein, une... interruption avec Boom Boom Baby, hein, c'est un groupe italien qui explore des territoires et des rythmes musicaux différents. Boom Boom Baby, c'est un album coloré, hein, où l'on passe de la samba à des rythmes africains dans une ambiance jazzy. Chaque morceau est une belle surprise, hein, c'est toujours de la musique libre, hein, sur Micro Rebelle. Donc on va écouter After All. Thank you. Bien, on est toujours sur microrebelle.fr hein, et en rediffusion chez nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, typiquement Radio PFM 99.9 et Radio Plus 104.3, que nous remercions pour leur partenariat, pour leur coopération pour soutenir notre émission. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Actualité et Revue de presse hein, que nous allons vous présenter, Aurélie et moi. Je vais commencer par évoquer quelques aspects liés à l'actualité de cette semaine, en commençant peut-être par la journée mondiale du réfugié. Hein, cette semaine, il y avait jeudi notamment la journée mondiale du réfugié. Et à cette occasion, le collectif People Not Walls, hein, qu'on pourrait traduire hein, par « pour les gens, pas pour les murs » en quelque sorte, hein, ce collectif People Not Walls qui est impliqué dans l'initiative Transmanche de défense des droits humains, donc ce collectif a publié une déclaration hein, à l'occasion de cette journée des réfugiés. Je vais vous en lire quelques extraits. Hein. C'est une déclaration qui est assez longue, donc je vous résume, enfin je vous extrais quelques propos de cette déclaration. Depuis des décennies, les personnes exilées qui cherchent à rejoindre le Royaume-Uni par le nord de la France se retrouvent dans des situations de précarité extrême, soumises à des traitements inhumains et dégradants et confrontées à des violences policières excessives. Les tactiques d'intimidation, incluant l'utilisation de gaz lacrymogènes, la destruction systématique des lieux de vie, la privation de sommeil et les arrestations, font partie d'une stratégie délibérée visant à créer un environnement extrêmement hostile. Les autorités n'ont pas pris les mesures suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes exilées. En particulier, rien n'est fait pour répondre aux besoins spécifiques des familles, des femmes et des enfants. Repoussés plus profondément dans les forêts et derrière les dunes, vivant dans les fossés et sur les tas de déchets, les personnes exilées sont reléguées dans les marges de nos villes, hors de la vue, hors de l'esprit. Il est grand temps, poursuit ce communiqué, cette déclaration, il est grand temps de procéder à un véritable changement axé sur la recherche de solutions constructives et le respect des droits fondamentaux de tous ceux qui cherchent un avenir meilleur ou un refuge. Nous demandons que soit immédiatement mis fin au traitement inhumain et dégradant subi par les personnes exilées bloquées à la frontière franco-britannique. La violence exercée par les autorités françaises, à laquelle sont implicitement associées les autorités britanniques, doit cesser. Celles-ci doivent mettre en place des services humanitaires tels que l'accès à des hébergements, des soins, à l'alimentation, l'eau potable et l'hygiène. Elles doivent soutenir les acteurs engagés en faveur de la solidarité et être porteuses d'un discours constructif quant à l'accueil des personnes exilées, à l'inverse du discours hostile qui prévaut aujourd'hui. Enfin, le droit d'asile doit être respecté à la frontière. Des voies sûres et légales de migration vers le Royaume-Uni doivent être développées et le règlement Dublin suspendu afin de permettre aux personnes de chercher asile dans le pays de leur choix. Toujours dans l'actualité cette semaine, hein, aéroport de Paris. Hein, vous savez qu'il y a actuellement une mobilisation pour une collecte de signatures afin que soit organisé un référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. Et notamment cette semaine, on a assisté à un spectacle assez curieux, un meeting, enfin au moins un meeting commun entre différents partis de droite et de gauche ensemble, hein, à la même tribune, pour amener à la collecte de signatures pour l'organisation de ce référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. Alors notre propos à Microrebelle, ça n'est pas d'indiquer s'il faut ou non prendre part à la collecte des signatures. Par contre, il nous semble important de lutter contre la privatisation d'aéroports de Paris et d'une manière plus large, lutter pour la défense de l'ensemble des services publics. Hein, ça peut concerner les écoles, les chemins de fer, les autoroutes, la santé, etc., etc. Et puis, j'ai envie de dire, il est sans doute possible de profiter, hein, profiter entre guillemets, du débat qui s'engage concernant ce référendum, pour aller plus loin concernant cette question des privatisations. Bien entendu, il faut refuser les privatisations. Mais le fait qu'une entreprise telle Aéroport de Paris appartienne à l'État, autrement dit soit nationalisée, est-ce vraiment ce que nous souhaitons? Une entreprise qui appartient à l'État est contrôlée par des politiciens et des hauts fonctionnaires. Au moins, elle n'appartient pas à des monopoles privés, c'est vrai. Mais elle n'appartient pas non plus à la population, aux usagers, ni bien évidemment aux femmes et aux hommes qui y travaillent. Et c'est bien la question de l'autogestion des moyens de production que nous pouvons poser à l'occasion de ce référendum et de cette collecte de signatures concernant Aéroports de Paris. Autogérer les moyens de production, c'est d'abord l'affaire de celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise, qui produisent de la valeur. Et les usagers peuvent bien sûr être partie prenante également de ce processus autogestionnaire. Actualité sociale au travers de quelques coupures de presse maintenant. Alors, vu dans La Voix du Nord, je vous lis le titre. Nouvelle manifestation des salariés de GEL, victimes de la flexicarité. Et le sous-titre de La Voix du Nord, ils sont en CDI, mais ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail et de salaire que les employés des entreprises de logistique pour lesquelles ils travaillent. Le ton est monté d'un cran grâce à l'inspection du travail. Alors de quoi s'agit-il? Le journal nous expose la situation. Comme un air de déjà-vu, même lieu, même heure, même combat. Il y a 4 mois de cela, des salariés syndicalistes, CGT et CFDT, de GEL, donc GEL c'est Groupement d'employeurs logistiques, qui s'appelle D2L Group depuis 2017, dont l'antenne nordiste est située avenue Van Pelt à Lens, étaient en grève. Ils étaient un petit peu plus nombreux hier, une petite dizaine. Mais dans notre situation, faire grève, c'est risqué. Ils sont 130 salariés dans le Lensois. Certains sont venus de Reims, profitant d'une assemblée générale hier après-midi dans les locaux Lensois pour faire du bruit. Pour eux, les groupements d'employeurs contournent la loi. Les salariés sont embauchés en CDI pour être placés en mission chez les partenaires du groupement d'employeurs, au premier rang desquels La Poste, Carrefour, Supply Chain, XPO Logistique, ID Logistique, etc. À l'origine, ce système se veut un gage de sécurité pour les salariés, car préférant le CDI à l'intérim. On nous vend du rêve avec un CDI, mais après tout s'écroule, lâche Patrick qui travaille chez ID Logistics. Toutes les primes de fin d'année, le 13e mois, ça tombe à l'eau. C'est surtout une flexibilité pour les employeurs et une précarité pour les salariés, peste Mustapha Baïla, délégué CGT venu de Reims. Nous sommes mis à la disposition d'un seul et unique employeur, ce qui n'est pas dans la philosophie initiale des groupements d'employeurs. Dans leur ligne de mire, le grand patron de D2L Group, Guilhem Dufort de Jajarte, il présente son modèle comme un modèle social innovant, or c'est de l'exploitation pure et dure. Alors, actualité sociale toujours, et juste à côté de chez nous, hein, ça se passe à Salomine, au sein de l'entreprise Durisotti, qui s'appelle maintenant Liberty Durisotti. Alors, la coupure de presse que nous avons relevée dans La Voix du Nord explique en titre « Grève à durée indéterminée chez Liberty Durisotti ». Explication du journal. Après l'échec des négociations, les salariés se sont mis en grève, un mouvement qui pourrait durer. Les salariés protestent contre le résultat des négociations salariales. Si la direction estime qu'elles ne sont pas terminées, les deux syndicats UNSA et CGT dénoncent une proposition d'augmentation salariale annuelle au ras des pâquerettes. Mercredi à 10h, le personnel du carrossier salominois est parti en assemblée générale face au refus répété de la direction d'augmenter les salaires, selon les syndicats UNSA et CGT. Au bout de 3 réunions, on nous proposait 0 € d'augmentation. Les collègues étaient révoltés, relève Philippe Goya, délégué CGT pour la négociation. Et il complète, le directeur financier nous a dit que si on faisait une assemblée générale, il n'y avait plus de négociation. À partir de là, les gars sont sortis et se sont mis en grève. Au bout de 3 réunions où on nous proposait 0 € d'augmentation, les collègues étaient révoltés. Enfin, une entreprise dont on a déjà parlé lors de nos émissions Micro Rebelle Hebdo, c'est l'entreprise ASAD, l'association de soins et de services à domicile, avec deux coupures de journaux hein, que nous avons relevées cette semaine. Première coupure du journal, une partie des salariés de l'association de soins et de services à domicile à bout. Après les proches des bénéficiaires de l'association de soins et de services à domicile, donc l'ASAD, ce sont les auxiliaires de vie qui montent au créneau suite à l'annonce tardive du non-remboursement total de leurs frais kilométriques d'avril. Donc le journal rappelle un petit peu de quoi il s'agit. Mécontentement chez les proches des bénéficiaires, chez les bénéficiaires eux-mêmes et chez les auxiliaires de vie. La situation n'est pas au beau fixe à l'association de soins et de services à domicile, l'ASAD. Les salariés viennent d'apprendre que ce mois-ci, seulement un quart de leurs frais kilométriques d'avril seraient remboursés. Le reste doit être payé par l'association pour la gestion du service de garantie des créances des salariés, l'AGS, qui intervient en cas de difficulté financière. Mais quand ? Selon les salariés, aucune date n'a été fixée. Pour 1000 km, cela représente un peu plus de 250 euros en moins sur la fiche de paie. Une mauvaise nouvelle supplémentaire pour les salariés. En février, elles s'étaient mobilisées après avoir appris au dernier moment que le paiement de leurs heures supplémentaires serait décalé d'un mois. Selon plusieurs d'entre elles, trois mois plus tard, seulement 45% de la somme leur a été versée, soit un manque à gagner d'au moins 1000 euros. Des annonces qui peuvent s'expliquer par les difficultés financières de l'ASAD. Actuellement en période d'observation, elle pourrait être placée en redressement judiciaire le 26 juin, ce qui permettrait de geler ses dettes sur 10 ans. Donc ça, c'était une première coupure de presse concernant l'ASAD. Et une deuxième coupure de presse donc, qui nuance un petit peu, non pas cette réalité, mais qui donne le point de vue de la direction de cette association de soins et de services à domicile. Donc le titre de cette coupure de presse, ASAD, on ne parle jamais des 98% de prestations qui sont assurées normalement. Gronde chez les auxiliaires de vie de l'association de soins et de services, l'ASAD, les bénéficiaires et leurs proches. Si Alain Bavé ne nie pas les difficultés, le président de l'association rappelle que tout ne va pas mal. Donc cette coupure de presse hein, donne en quelque sorte un contrepoint, autrement dit, essaie de détailler en quelque sorte ce qui constitue l'actualité, l'autre actualité de l'ASAD. On donne une image déplorable de l'ASAD, alors qu'aujourd'hui on a besoin de renouer la confiance avec les salariés, pose Alain Bavé. On ne parle jamais des 98% de prestations qui sont assurées normalement. Si le président de l'association de soins et de services à domicile ne nie pas les difficultés, il tient aussi à rééquilibrer les débats. Et le journal conclut, actuellement en période d'observation, l'ASAD pourrait être placé en redressement judiciaire à l'issue de l'audience prévue le 26 juin au tribunal de Béthune, une décision qui gèlerait les dettes de l'association sur 10 ans et lui permettrait de souffler financièrement parlant. Là encore, Alain Bavé, le président, est plutôt confiant. Alors une toute dernière coupure de presse hein, qui nous fait quand même relativement quelque chose à Micro-Rebelle, puisqu'il s'agit de l'anniversaire de Radio Quinquin. Radio Quinquin, c'est une radio libre hein, qui existait bien avant la légalisation des radios. Donc c'est une radio pirate en quelque sorte. Eh bien Radio Quinquin aura 40 ans cette année. Et La Voix du Nord hein, se propose en quelque sorte d'anticiper cet anniversaire, hein, puisque c'était en novembre 1979. Donc on est à quelques mois des 40 ans de cette radio, dont en quelque sorte un Micro-Rebelle, d'une certaine manière, est un petit peu l'héritière, hein, puisque c'était également une radio de lutte. Je vous lis un petit peu quelques extraits de cette pleine page de La Voix du Nord qui relate ce qu'était Radio Quinquin. L'histoire de Radio Quinquin, c'est un peu le mouvement des Gilets jaunes 40 ans en arrière. Nous sommes en 1979. Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les radios contre ça des copains qui avaient créé Radio Campus, une ancienne radio clandestine, ils fondent la leur, baptisé Radio Quinquin. Et donc, au niveau historique, hein, pour passer de la vitesse supérieure, continue le journal, on décide d'installer Radio Quinquin dans un site pérenne avec un vrai studio. Oby est la seule ville de la région qui accepte de l'accueillir et de fournir un local dans la mairie. La cité est alors dirigée par un jeune maire communiste, Aldebert Valette. Voilà, donc le journal poursuit un petit peu l'histoire de Radio Quinquin. Je pense qu'à Micro-Rebelle, on aura l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, et jusque novembre, date de ce 40e anniversaire. Je passe maintenant le micro à Aurélie pour la suite de cette revue de presse.
Merci Lucien. Donc cette semaine dans Politis, un article parle des professeurs insurgés contre le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, et ses mesures. Vous en avez peut-être entendu parler, pendant cette semaine tant attendue par les élèves, la fameuse semaine du baccalauréat, les professeurs se sont mobilisés pour dire non aux réformes de Blanquer. Dire non ? Mais comment ? C'est dans la rue du Bac, à Paris, vous pouvez noter que les professeurs ont de l'humour, que nous avons pu retrouver un grand nombre de professeurs grévistes. Professeurs qui refusent alors de surveiller les épreuves du baccalauréat. Injuste, vous dites, pour ces pauvres petits élèves ? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. C'est justement pour la jeunesse et au nom de la jeunesse qu'ils se mobilisent, contre la disparition des filières au profit d'un pack de spécialités selon disponibilité, comme le dit l'article, mais aussi contre un bac à 40% en contrôle continu, contre la diminution du nombre d'auxiliaires de vie scolaire déjà peu présentes pour aider les enfants atteints d'handicap. En somme, contre un avenir douteux pour les futurs bacheliers dans les années à venir qui seront les bêtes de laboratoire du gouvernement. Rappelons-le, le gouvernement a déjà du mal à placer tous ces jeunes encore en liste d'attente sur la plateforme Parcoursup. Ne devrait-il pas, dans un premier temps, régler ce problème avant d'enchaîner vers de nouveaux problèmes ? Les professeurs sont les premiers témoins de cette politique instable qui règne dans l'éducation nationale. Quelques mois plus tôt, nous avons pu voir des adolescents dans les rues pour dénoncer l'injustice de Parcoursup, pour crier leur refus aux réformes Blanquer. Aujourd'hui, c'est au tour de leurs professeurs qui en ont assez d'être les vaches à lait de l'éducation nationale. Ce n'est pas seulement les réformes Blanquer, c'est un tout en vérité. Et peut-être que dans ce cas-là, ces mêmes réformes devraient être faites par les professeurs eux-mêmes, qui, rappelons-le, sont au cœur même de l'éducation des jeunes chaque jour de l'année. Donc ces manifestations sont la preuve même que, pardonnez-moi l'expression, quelque chose cloche dans l'éducation nationale. Il n'y a pas de secret, à chacun son métier, à bon entendeur.
Web radio indépendant de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Oui, micro-rebelle, média solidaire. Deuxième pause musicale avec Anna Molly. Anna Molly, c'est une chanteuse argentine. Elle compose et écrit ses propres chansons et connaît un succès grandissant dans son pays natal. Donc ce sont des ballades dans un style folk très sobre. Elle s'accompagne d'une guitare ou d'un ukulélé. Sa voix est cristalline, douce. Un peu de poésie donc à découvrir. On va écouter Gracias y de nada. No pretendo cambiar nada. bien, pour terminer cette émission, je vous propose un extrait, hein, un extrait parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, un extrait d'un entretien que nous avons effectué auprès de Grégory Picard, qui vient de rééditer un livre qu'il a écrit au début des années 2000. Ce livre s'intitule « Les citoyens de la liberté ». Donc on va écouter les premiers échanges concernant cet entretien à propos de son livre. C'est un livre sur la résistance dans le bassin minier. N'hésitez pas à le retrouver dès cette semaine sur microrebelle.fr. On aura sans doute l'occasion d'en écouter d'autres extraits. Je vous laisse tout de suite avec Grégory Picard. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission reportage sur Microrebelle, donc accessible sur microrebelle.fr. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Picard. Bonjour Grégory.
Salut Lucien, bonjour à tous.
Grégory qui réédite un livre qu'il a écrit maintenant il y a plusieurs années, « Les citoyens de la liberté ». Donc on va avoir un entretien avec Grégory concernant cet ouvrage, cette nouvelle parution. Alors Grégory, si tu es d'accord, une première question. Peut-être, « Les citoyens de la liberté », est-ce que tu peux nous situer le contexte, la période, le territoire ?
Alors « Les citoyens de la liberté », c'est un ensemble de portraits de résistants et de résistantes, des secteurs de Grenay, Bully, Le Sanguel notamment. Et donc, effectivement, bon, résistance, qui dit résistance, on est sous la Seconde Guerre mondiale en France, hein, dans le bassin minier.
La résistance, Bully, Grenay, Le Sanguel, elle démarre comment ? Elle naît où ? C'est dans un quartier ? C'est épars ? Comment ça se présente ?
Alors sur le secteur de Grenay et Le Sanguel, d'après ce que j'ai, d'après mes études, mes recherches, tout ça, les témoignages que j'ai eus, on peut dire que la résistance, tout au moins celle, le noyau, la résistance, la fameuse résistance FTP, franc-tireurs et partisans, est née probablement dans à la Cité 5, une Cité 5 qui est un peu partagée entre Grenay et Le Sanguel. Et on voit, il y a des, d'après les témoignages et les documents que j'ai eus, on voit qu'il y a des personnes qui, dès 41, fin 40, ils commencent déjà à faire des choses. Pas grand-chose, puisqu'on n'a pas forcément, ils n'ont pas de moyens. Il ne faut pas rêver aussi, les résistants, même FTP, ils ont très peu de moyens, même après dans les années qui vont suivre. Et donc ce noyau, ça débuterait dans cette cité que j'appelais parfois Grenoble-Lossoise, la Cité 5. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas surprenant, puisque... Il y a Julien Appiot, qui était cofondateur de ce qui va devenir les francs-tireurs et partisans. Julien Appiot, il était de ce secteur-là, de Grenay, Le Sanguel. Il travaillait à la fosse 5 de Los et il avait plein de copains qui étaient mineurs et qui sont devenus résistants. Et beaucoup ont été déportés, internés. Voilà, donc...
Alors tu évoques des mineurs, c'est majoritairement des mineurs ou ça n'est que des mineurs ou il y a d'autres catégories professionnelles ?
Alors dans les citoyens de la liberté, effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistants qui étaient mineurs. La corporation minière, tout ça, les gens dits du peuple se sont beaucoup investis, se sont beaucoup sacrifiés dans ce mouvement de la résistance. Toutefois, il faut être juste, et il y a aussi des personnes, on va dire des notables, qui se sont, bon, assez peu, qui se sont mobilisés dans les mouvements de résistance. On peut notamment faire la remarque, c'est citer un nom au moins, c'est Michel Verbrugge, le docteur Michel Verbrugge, qui était dans la résistance et qui même faisait partie... du comité départemental du Front National de Libération et pour l'indépendance de la France, et notamment aux côtés du fameux résistant René Lannoy, qui est parfois honoré dans certaines villes, puisque il n'est pas rare de voir une plaque, une rue René Lannoy, et notamment à Grenay, hein, puis à Le Sanguel, en tout cas à Lens aussi, hein, je crois.
Alors tu évoques un petit peu en quelque sorte, les catégories professionnelles. Est-ce que tu peux évoquer les engagements politiques Donc Julien Piot, il était communiste. Alors ces résistants, ce sont des communistes ou il n'y a pas que des communistes? Comment ça se présente?
Alors, effectivement, au niveau de l'engagement des résistants, je veux dire, il y avait beaucoup de résistants qui étaient de sensibilité politique communiste. Hein, c'est clair que aucun travail sérieux d'historien qui parlerait de la résistance, et notamment dans le bassin minier, on ne peut pas ne pas dire qu'il y avait des résistants communistes. Après, dire qu'il n'y avait que des communistes dans la résistance, ça ne serait pas juste non plus. On a eu aussi des gens sans véritable attache politique. Il y a eu des gens qui étaient membres du Parti Socialiste. Et puis, il y a eu aussi des personnes qui, comme on dit, c'était des gaullistes avant l'heure. On peut reciter, effectivement, Michel Verbrugge, le docteur Verbrugge, mais aussi, on peut citer aussi un résistant qui a marqué son empreinte le secteur de Grenelle, Sangouel et ailleurs, c'est Louis Pont. Louis Pont qui était commerçant à Grenelle, et donc effectivement on a vraiment deux types de résistants, mais de sensibilité, on va dire, c'était des gaullistes avant l'heure.
Et puis peut-être aussi des personnes qui s'engageaient au travers de leur foi, qui étaient des catholiques.
Voilà, c'est ça, il y a eu par exemple... Jeanne de la Forge, enfin, qui est devenue plus tard Jeanne de la Forge, qui était infirmière pour le mouvement Libération, un autre mouvement de résistance, et effectivement elle était membre des JOC, des Jeunesses Ouvrières Catholiques.
Alors ton livre Les Citoyens de la Liberté, hein, donc, c'est une galerie de portraits, mais au travers de cette galerie de portraits, on peut quand même en filigrane détacher plusieurs thématiques phares. Si tu es d'accord, on va en aborder quelques-unes. Hein. Je vais me permettre de te tendre des questions sur des thématiques peut-être un peu plus ciblées. Je voudrais commencer par te proposer d'évoquer la grève des mineurs de mai-juin 41.
Alors la grève, effectivement, la grève de mai-juin 41, qui malheureusement n'est pas assez connue. C'est un mouvement de masse énorme. C'est probablement un des mouvements de masse de résistance les plus importants dans l'Europe occupée. Hein. Et ça, effectivement, on retrouve notre corporation des mineurs, nos amis mineurs, qui, effectivement, en mai-juin 41, se soulèvent et puis, pendant une quinzaine de jours. Et puis, effectivement, c'est un mouvement important qui va aussi mobiliser. Il y a pas mal de gens qui vont entrer dans la résistance après ce mouvement-là. Donc, et donc, c'est une grève. Les mineurs vont se battre pour leurs conditions de travail. Mais aussi, effectivement, dans un contexte comme celui de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, effectivement, il va y avoir quelque chose de patriotique dans cette grève. Donc c'est vraiment un mouvement extrêmement important. Et on peut rendre hommage aux femmes, parce que bon, il y a eu 100 000 mineurs et qui se sont mis en grève, et ils ont été soutenus courageusement par les femmes. Donc la grève des mineurs a commencé... à la fosse du Dahomey à Montigny-en-Goël. D'ailleurs, tous les ans, il y a une cérémonie en hommage à ces résistants, à ces mineurs.
C'est une grève anti-production, en quelque sorte.
Oui, voilà, c'est ça. C'était l'idée aussi. Comme le matériau partait en Allemagne nazie pour l'industrie de l'armement, effectivement, ralentir la production minière à travers cette grève, c'était effectivement un acte de résistance. C'était effectivement... Faire gêner la production et donc faire du mal, c'est résister contre l'occupant.
Bien, donc c'était un extrait, un tout petit extrait de cet entretien qui est tout à fait passionnant, qui nous permet de parcourir avec Grégory Picard son ouvrage, Les Citoyens de la Liberté. Donc très bientôt disponible sur microrebelle.fr, mais on aura sans aucun doute l'occasion d'en reparler très prochainement. Voilà, donc cette émission se termine. Aurélie et moi, on va vous laisser. On va cependant vous donner rendez-vous, comme on l'a dit dans notre agenda, la semaine prochaine, donc samedi prochain, c'est notre Assemblée Générale ouverte à Microrebelle. Ça se passe de 10h à 12h30 au LAG, le lieu autogéré du bassin minier à Liévin. C'est suivi du barbecue de fin d'année, hein, puisque l'été est là. Donc à l'occasion de cette assemblée générale, on convie toutes les personnes, adhérentes ou non, bénévoles, militants, militantes, pour réfléchir à quelques questions qui concernent notre radio. Hein. Micro-Rebelle, quelle radio dans le bassin minier? Radio de journalisme? Journalisme amateur? Quel journalisme? Faut-il plus de flash, plus d'analyse, plus de reportage? Une radio à caractère culturel? Une radio avec davantage de musique? De la musique libre? Est-ce qu'on reste en musique libre? Comment remplir une grille avec des contenus de qualité? Implication d'autres radios dans notre grille de programme? Et puis, quelle radio souhaitent les auditrices et les auditeurs? Donc on vous donne très, très sincèrement rendez-vous la semaine prochaine pour cette Assemblée Générale ouverte. Eh bien, dans l'attente, nous vous souhaitons une bonne semaine à toutes et à toutes. Portez-vous bien. Bye bye.